Donc, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On est toujours dans notre cours qui va se terminer dans quelques. Il reste encore quelques cours avant qu'on ait terminé le livre de l'Apocalypse. On va commencer par prier, par se remettre entre les mains du Seigneur, avant de replonger dans notre sujet. Seigneur, je me livre entre tes mains, Seigneur. Moi, Seigneur, et les auditeurs qui sont présents, ceux, Seigneur, qui vont écouter plus tard, bénis ton peuple, Seigneur, par ta parole, et qu'on puisse tous, ô Dieu, être des enfants attentifs à ce que nous dit, Seigneur, ta parole. Remplis-nous, Seigneur, de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur, afin que nous discernions les temps dans lesquels nous vivons et que nous discernions, Seigneur, avant ton retour, que ce soit dans cette génération, dans la prochaine ou dans la suivante, comment on doit se comporter, comment on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ces jours qui sont les nôtres. Seigneur, je remets entre tes mains, Seigneur, cet enseignement. Bénis, Seigneur, ton peuple et assiste-moi, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous disais, soyez les bienvenus. Ce soir, on reprend notre sujet d'Apocalypse. Entre dans le sujet en vous disant un peu avec qu'est-ce qu'on avait terminé. La semaine dernière, on avait vu le retour de Christ triomphant au bout des 7 années de tribulation, après que la gouvernance de l'Antéchrist va avoir fait ses ravages. Le monde alors va assister au retour de Christ avec son Église, avec son épouse. L'Église va être devenue l'épouse de Christ et on va venir avec lui pour prendre un nouveau règne où Christ va régner dans un 1000 ans de paix. On avait regardé dans la semaine dernière quand ce règne-là va débuter, quand Christ va revenir, on voit que la bête et le faux prophète, ils sont jetés en enfer, soyons clairs, et Satan est lié, lui, pour 1000 ans. Ce soir, on va regarder, on va s'attarder un peu plus sur le millénium. Et ici, vous allez voir dans cette semaine, la semaine prochaine, la suivante, des conceptions qu'on a gardées depuis des années, voire des dizaines d'années, des conceptions qui n'étaient pas tout à fait bien alignées avec ce que la Bible nous dit concernant le règne millénaire, concernant l'éternité d'après le temps, concernant un peu comment va se dérouler ces choses-là. Et on va à la fois bâtir, mais à la fois déconstruire un peu des choses peut-être que vous avez dans votre entendement. Généralement, les gens voient les choses simplement. Jésus revient, les bons héritent la vie éternelle, les méchants en enfer, that's enough, on rentre dans un état éternel. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se déroule. Et je vous avais expliqué qu'on serait surpris de certaines choses. Je vous avais dit ça dans le début de cette étude-là, qu'on serait surpris de comment la Bible traite certains sujets. Et le millénium en fait partie. Donc, vous tournez dans vos Bibles, Apocalypse, chapitre 20, les versets 4 à 6. On était rendu ça ici, après ce que je viens de vous mentionner concernant l'Antéchrist et le faux prophète concernant le retour de Christ sur la terre. Je vous avais expliqué comme il faut la semaine dernière un peu à quoi ressemblait le séjour des morts, si vous vous souvenez bien, comme un pré-enfer. Et je vous avais expliqué par de fait même qu'on avait un exemple dans la parole de Dieu et on l'avait pris, l'exemple de Lazare et du mauvais riche, et je ne veux pas y revenir. Ceci étant dit, ceci étant établi, lors du retour de Christ, Christ vient installer un règne. Le verset 4 du chapitre 20 d'Apocalypse nous montre la mise en place de ce règne-là. Et je vis des trônes, au verset 4 du chapitre 20, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la, retenez-le, là, c'est la première résurrection. C'est la première résurrection ou l'ordre, la fin de l'ordre de la première résurrection. Christ en ayant été le prémisse, suivant ça l'Église, et on a vu quelques endroits dans la parole où nous était donné de voir que cet ordre-là de résurrection, ce n'est pas une trompette et tout arrive à la fois. Mais il y a une ordre bien établie. Et ici, c'est la fin. Donc, si c'est la fin de la première résurrection, c'est qu'il va y avoir une autre résurrection. Si c'est la fin de la première résurrection, c'est qu'il y a minimum une seconde résurrection. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, « Les autres morts ne reverront point la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, Satan est lié pour 1000 ans, comme on a parlé. Cette période-là correspond au règne terrestre de la gouvernance théocratique de Christ. La durée du règne nous est donnée de façon claire, mentionné 6 fois dans le chapitre 20 d'Apocalypse, 1000 ans. Donc, ça nous, on est amené là, ici à se pencher sur le millénium et de ce fait, sur un des plus longs versets de toute votre Bible, le verset 4 du chapitre 20. Si vous regardez le chapitre 4 du verset 20, vous allez voir que ce verset-là est long. Et ça associe ici le règne de Christ particulièrement avec les martyrs et avec les vainqueurs qui vont avoir résisté au système, à la marque, au nombre du nom de la bête. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Eux vont avoir passé la grande tribulation et un règne particulier de 1000 ans qui est associé à nous, oui, et au règne de Christ, mais particulièrement à ceux qui ont été décapités, à ceux qui sont morts en martyrs, que nous dit le verset 4, à ceux qui sont morts en gardant la parole de Dieu, qui n'avait ni adoré la bête, ni son image, qui n'avait pas reçu la marque, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand Christ revient, quand les trônes sont installés, le verset 4, la partie C du verset nous dit « Il revint à la vie et il régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » À ce moment-là, ils reviennent à la vie. Tous ceux qui étaient sous l'autel, si vous vous rappelez bien, qu'on avait regardé et qui disait au Seigneur, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » La Bible nous dit que Christ leur avait répondu de se tenir en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons martyrs comme eux soit complété. Et ici, on voit cette fin-là de la première résurrection, de cet ordre-là de la première résurrection, où c'est les martyrs du temps des 7 ans de tribulation, ceux qui sont morts au début, au milieu, à la fin, et ceux qui vont rester là vont être changés, si on peut s'exprimer comme ça. Et eux ont un règne spécifique avec Christ pendant 1000 ans, naturellement associé à l'épouse, naturellement associé au règne de Christ, mais à cause de leurs conditions particulières qui ont dû vivre, ce règne-là leur est attaché particulièrement à eux. Ces gens-là sont les vainqueurs de la grande tribulation. Ces victimes-là de l'Antéchrist vont ressusciter à la fin, et non pas avant, à la fin de la grande tribulation, et ils devront attendre, comme je vous ai dit, que le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devaient être mis à mort, soit complet. Et ensuite de ça, il nous est confié une certaine royauté pendant un règne physique, pendant un règne terrestre sur la terre. Donc, en Apocalypse, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, il y a d'autres morts qui vont revenir à la vie après les 1000 ans de paix. Après les 1000 ans de paix, il va y avoir un second ordre de résurrection. L'affirmation de ce verset-là, du verset 5, sur le règne millénaire de Christ, en fait, le règne millénaire s'installe en 2 résurrections, entre la fin de l'ordre de la première résurrection, dont Christ a été le prémisse, nous, l'apogée, et les autres personnes qui sont mortes en martyr étant le glanage à la fin, parce qu'ils n'auront pas eu honte de souffrir pour Christ. C'est l'ordre de la première résurrection qui se termine là, entre le millénium et la deuxième ordre de résurrection. Donc, le millénium est intercalé en 2 résurrections. La résurrection des justes, ou la fin, si vous voulez, de l'ordre de la résurrection des justes, pardonnez-moi, et la résurrection des injustes qui précède la seconde mort. C'est le second ordre de la résurrection. Si vous tournez dans 1 Corinthiens au chapitre 15, on va commencer à regarder certaines choses concernant le règne millénaire. On va regarder particulièrement 6 points centraux de cet ordre-là millénaire qui va être donné. Lorsque Paul va écrire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 22 à 26, Paul va dire, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous, et de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, verset 26, qui sera détruit, c'est la mort. Et ça, on va le voir à la fin, à la fin, à la fin. c'est le dernier ennemi à être vaincu, la mort. Donc, dans le règne millénaire de Christ, ce règne-là est meublé de certaines choses. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le passage qu'on vient prendre dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous dit, de même aussi tous revivront en Christ. Ça ne veut pas dire dans le Seigneur, en connaissant l'Évangile, mais avec la venue de Christ, avec la fin du millénium, il va y avoir un jugement des injustes. Et je sais que c'est difficile peut-être à capter, à imaginer l'horreur de la scène, disons ça comme ça, mais il va y avoir une ordre de résurrection des injustes qui vont ressusciter avec un corps glorifié, comme vous et moi, mais pour leur perte, parce que tous revivront. Et le dernier ennemi va être détruit, c'est la mort. Donc, que tant que ce dernier ennemi-là n'est pas jeté dans les temps de feu ou de soufre, il reste un ennemi à vaincre. Et le millénium va être composé de certaines choses qui vont amener les gens à prendre une décision avant que le dernier ennemi soit vaincu. La résurrection qui est prédite, que toutes revivront en Christ, c'est cette résurrection-là, premier ordre, millénium, deuxième ordre. Je prends bien mon temps pour que ça soit bien saisi. Et ceux qui ont affaire au premier ordre de résurrection, c'est-à-dire les sauvés de toutes les générations, y compris ceux de la grande tribulation, ils seront, que la Bible nous dit, sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui, dans les versets qu'on a pris tantôt, pendant 1000 ans. Cette phrase est la seule description de l'époque millénaire donnée dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est le seul passage dans ce verset-là qui nous est donné du règne. Mais ailleurs dans la parole de Dieu, la Bible nous en parle assez abondamment de ce thème-là du millénium. Naturellement, nous ne prendrons pas tous les passages concernant le millénium. Je vais vous donner beaucoup de passages, je vous le dis tout de suite. Comme c'est enregistré, vous pourrez revenir et les vérifier tous un à un. Mais moi, je me contenterai d'en prendre quelques-uns épars un peu pour vous donner un peu l'idée générale du règne millénaire de Christ. Mais l'Apocalypse nous donne, dans le chapitre 20, le verset 6, un verset, et ils régneront, ils seront sacrificateurs de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et l'Apocalypse ne se rend pas plus loin, c'est le seul verset qui concerne cela, qui concerne dans l'Apocalypse le règne millénaire de Christ. Mais, comme je vous ai dit, l'Apocalypse n'est pas le seul livre de votre Bible, et dans d'autres livres, et c'est ce qu'on va prendre maintenant, ce soir, j'espère avoir le temps d'avancer un peu plus loin, mais c'est ce qu'on va prendre, on va regarder des facettes de ce règne-là millénaire. On va résumer un peu les faits. Donc, Christ va régner pendant 1000 ans, avec un règne associé par les martyrs et son épouse. Il va régner sur terre, à partir de Jérusalem. Ça va être un règne de justice, d'équité. Il va y avoir encore des humains qui vont être sur la terre. Parce que lors du retour de Jésus avec son épouse, les combats vont cesser. Christ va installer un règne de paix. Bien qu'il va y avoir eu des centaines de millions de personnes de décédés, il va rester encore un noyau d'humains sur la terre qui va avoir un millénium ou un 1000 ans pour repeupler. pour repeupler la terre. Si vous tournez dans Ésaïe, chapitre 32, et je ne prendrai que le verset 1, vous pourrez vérifier, vous, les versets 1 à 4, mais je ne prendrai que le verset 1. Ça va être un règne, premièrement, avec magnificence. Alors le roi règnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Ésaïe parle beaucoup du règne millénaire. Pour ceux qui sont des étudiants un peu plus aguerris de la Bible, vous savez que le livre d'Ésaïe est appelé l'évangile de l'Ancien Testament. Le plan du salut est dedans le livre d'Ésaïe de façon différente. Et certains éléments du règne millénaire aussi sont là et on va en prendre plusieurs. Donc, premier point des six points. Dans Ésaïe 32:1, le roi va régner selon ou avec justice et les princes vont gouverner, vont avoir une gouvernance sur la terre, une gouvernance droite. Vous trouvez les mêmes choses dans Ésaïe 33:17, où le règne du Messie s'établit comme un règne du fils de David à partir d'Israël et sur Israël aussi. Il va s'étendre à toutes les nations. Et c'est ici que je vais vous donner beaucoup de versets là, pour les minutes qui suivent. Et naturellement, on ne les vérifiera pas tous. Vous trouvez ça dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Ésaïe, chapitre 55, versets 3 et 4. Jérémie 33, 15 et 17. Michée, chapitre 4, les versets 1 à 8. Il va paître les nations aussi. Pas juste Israël, les nations, avec une verge de fer. Vous trouvez ça dans le psaume 2, verset 9, dans le psaume 68, verset 36, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 27, Apocalypse 12, 5 et Apocalypse 19, 15, qu'on a regardé juste dans l'autre semaine. Deuxième point. Donc, on a vu le premier point, ça va être un règne de justice, d'équité. Ce règne-là va se manifester en la personne du Messie sur Israël, mais aussi sur les nations. Deuxième point, Israël va être restauré en tant qu'entité historique, d'une part, mais aussi d'entité spirituelle, d'autre part. Entité historique, vous trouvez ça dans Ésaïe, chapitre 35, verset 1 à 7, Jérémie, chapitre 32, versets 36 à 42, Jérémie 33, versets 6 à 9, Zacharie 14, 9 à 10, et spirituel, Ézéchiel 37, particulièrement le verset 14, 26, 27 et 28. La gloire de Christ va résider à Jérusalem. Je vous l'ai dit, on ne prend pas les versets, je prendrai les plus importants, là. La gloire de Christ va résider à Jérusalem, toujours dans le deuxième point. Cette gloire-là qui va émaner sur le monde, qui va s'étendre au monde, va avoir un point central à partir de Jérusalem. Ésaïe 62, Jérémie chapitre 3, verset 17, Zacharie chapitre 14, verset 16 à 21. Troisième point concernant le millénium, les nations seront soumise à Christ. Non seulement il va régner avec une verge de fer, mais les nations vont être soumises. Au départ du millénium, plus facile d'être soumis parce que ces gens-là vont avoir vu de leurs yeux Christ revenir. On va y revenir tantôt. Ils vont avoir vu de leurs yeux, mais quand ça va peupler, un peu à l'instar de ce que je vous avais expliqué concernant Israël au désert, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit, la première génération qui est sortie d'Égypte, cette génération-là, même si on péchait, avait vu les exploits de l'Éternel Dieu, avaient assisté à la gouvernance de Dieu dans le désert, aux miracles faits, l'eau qui sortait du rocher, la manne qui tombait du ciel, la colonne de nuée d'un côté ténébreuse pour empêcher le soleil de les frapper au désert, et sur l'autre côté, la nuit de feu pour les éclairer. Soyons clairs, eux ont vu ça, mais après, à la fin du 40 ans, beaucoup étaient venus au monde pendant la marche de 40 ans dans le désert. Et pour eux, ces choses-là n'étaient qu'un fait avec lequel ils vivaient depuis 36, 37, 38, 39 ans. Il y avait des jeunes enfants qui étaient venus au monde la première année de l'errance dans le désert, qu'ils n'avaient connu que la manne, qu'ils n'avaient connu que la nuée, que l'eau qui sortait du rocher, que le désert. Ils n'avaient connu rien d'autre. Et pour eux, c'était tout à fait un peu à notre instar, à nous, quand on regarde le soleil se lever le matin, c'est naturel pour nous, soyons clairs. Eh bien, cette chose-là leur était naturelle. Les nations vont être soumises à Christ, le point 3, mais ça, on va voir à la fin que ça va se gâcher un peu, parce que les nations vont repeupler, il va y avoir des enfants issus du règne millénaire qui vont n'avoir connu que cela, que le règne millénaire. Vous trouvez ça dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, Daniel 2, 44. La Bible nous dit que pendant le règne millénaire aussi, le tribut, ou plus clairement, une forme d'impôt, va être payé à Jérusalem. Vous trouvez ça dans Zacharie, chapitre 14, versets 14 à 19. Le monde va jouir malgré qu'il va y avoir encore des humains sur la terre, malgré que l'humanité, et je ne vous parle pas de ceux qui vont être ressuscités, je vous parle de l'humanité, va rester invariablement pécheur lors du règne du millénium. Le péché ne règnera pas, mais le cœur de l'homme va rester ce qu'il est. Les gens, je vous l'ai dit, vont peupler, ils vont jouir d'une paix abondante, et vous allez voir que ça ne réformera pas le cœur de l'homme. Et en cela, ça va prouver quelque chose, que l'homme soit mis dans les meilleurs contextes possibles, son cœur ne changera pas lui. Donc, ils vont jouir d'une paix abondante, le monde va jouir d'une paix abondante, Israël va jouir d'une paix abondante. Vous trouvez ça dans Zacharie, chapitre 9, verset 10. L'humanité va être aussi au bénéfice. Et là, on va commencer à prendre des versets parce que je rentre dans des choses un peu plus pointues qui pourraient peut-être piquer un peu votre curiosité. L'humanité va être au bénéfice de la connaissance de Dieu. Et vous allez voir que la connaissance ne changera pas le cœur humain. C'est pour ça qu'on va prendre quelques... j'en prendrai un ou deux par sujet. Donc, l'humanité va être au bénéfice de la connaissance de l'Éternel. Vous trouvez ça dans Habacuc 2,14. Mais vous le trouvez aussi dans Ésaïe, et celui-là, on va le prendre. Ésaïe, chapitre 11, et le verset 9. Je vous ai dit qu'Ésaïe parlait beaucoup du règne millénaire. Et le verset 9 du chapitre 11 d'Ésaïe nous dit « Il ne se fera ni tard ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Tout dans la mer, toutes les petites aspérités qu'il peut avoir, sont contenus ou contiennent de l'eau. Soyons clairs. Et c'est l'exemple que la Bible nous donne. Donc, la connaissance de Dieu, on ne parle pas d'une connaissance parfaite, on vous parle de connaître Jésus comme Seigneur Sauveur personnel pour l'humanité, ça va lui être présenté, soyons clairs. On parle d'une connaissance accrue de la volonté de Dieu. Donc, l'humanité entière va être au bénéfice de cette connaissance-là de Dieu. Le péché, ici on va prendre aussi un verset, ne sera pas comme plusieurs. C'est pour ça que je vous dis, on va déconstruire des choses où je vais jeter peut-être certains raisonnements que vous aviez à partir au moment où Christ pose son pied sur le mont des Oliviers. Et comme je vous avais expliqué que le mont des Oliviers se fend par le milieu, il se creuse une vallée et Israël fuit. Soyons clairs, le péché ne sera pas supprimé dans le millénium. Le péché va être contenu. C'est-à-dire que le péché ne sera pas toléré. Il va être contenu. Mais le péché ne sera pas supprimé parce que tout le monde va être devenu saint. Parce qu'il va y avoir encore des humains sur la terre. Qui dit humain avec un cœur non régénéré, dit une âme pécheresse. Il n'y a pas un humain qui aime ça, entendre ça, mais il dit encore une âme pécheresse. Vous le trouvez dans Ésaïe 65, 20, et on va prendre ce verset-là, mais on va le prendre dans un contexte bien précis. Et on le trouve dans Ésaïe, toujours 65. Et on va prendre jusqu'au verset 24. Parce que on va regarder certains éléments. Okay? Donc, qu'est-ce que nous dit Ésaïe 65, versets 20 à 24? Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra, donc il va y avoir des gens qui vont mourir dans le millénium. Il va y avoir des gens qui vont mourir. Si vous allez lire Ésaïe 65, vous allez voir qu'on nous parle expressément du millénium. Et il y a des gens qui vont mourir pour cause que le péché va exister. Regardez bien. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. C'est ce que, on va y revenir tantôt un peu sur peut-être sur le verset 20, si j'ai le temps. Mais le verset 20 nous dit, il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, verset 21, et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils bâtiront des maisons. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple, parce que Christ va venir installer un règne millénaire, une gouvernance, vous qui m'écoutez, qui êtes ici au Canada, vous êtes Canadien, il y a une gouvernance, votre premier ministre, que vous ayez voté pour lui ou non, M. Trudeau est le premier ministre du Canada. C'est le premier ministre. C'est votre premier ministre. C'est le premier ministre du pays. Et ici, c'est le même terme qui est employé. Car les jours de mon peuple, c'est-à-dire de ce règne-là, seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ça va être un temps de bénédiction qui va couvrir la terre. Si vous relisez les versets qu'on vient de prendre, ça va être un temps de bénédiction qui va couvrir la terre, où Dieu va exaucer, où Dieu va donner de la prospérité, où la terre va produire, où Dieu va donner toutes les conditions pour que le monde, l'humain qui va rester sur la terre, soit dans des conditions optimum pour accepter l'évangile, la gouvernance, l'œuvre de Christ. Ça, le monde va être amené à un point optimum à ce niveau-là. D'accord? Donc, la nature, le point 5, ça, c'était le point 4, parce qu'on vient de parler. La nature, le point 5, va être d'abord libérée de la servitude dans laquelle elle a été plongée par l'humain. Rappelez-vous, dans la Genèse, Dieu dit à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, qu'il leur donne l'autorité sur toute la terre et que la terre va être assujettie et l'homme et la femme, l'humain, par le péché, a donné, si vous vous rappelez bien, cette autorité-là à l'ennemi. Et le péché règne depuis ce temps-là dans le monde. Et l'homme, que ce soit activement ou passivement, avec l'ennemi à la tête de ce monde, soyons clairs, est en train de détruire la terre. Et la nature elle-même est soumise, est avélie par l'homme. Et c'est ce qu'on trouve dans Romains, chapitre 8, versets 19 à 22, le point 5. La nature va être d'abord libérée et suivant ça, va être renouvelée aussi. Premièrement, libérée. Verset 19 de Romains 8. Aussi, la création attend-elle. La création, c'est les arbres, c'est tout ce que la création est, là. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Notre révélation, ça va être quand on va revenir pour installer le règne millénaire. Le royaume de Dieu, pour l'instant, il est caché. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, le royaume de Dieu s'est installé en vous. Il n'est pas sur la terre en tant que gouvernance. C'est installé en vous. Il règne sur vous. Il règne sur votre vie. Il règne sur ce que vous faites. Le royaume homme de Dieu, Christ en vous, vous donne de nouveaux désirs, vous donne une nouvelle vision de la vie. Vous fait voir la vie dans ce monde différemment. Vous donne une vision pour l'éternité. Le royaume de Dieu s'est installé en vous. Mais quand on va revenir avec Christ, le royaume de Dieu va venir s'installer sur la terre avec nous. Et c'est pour ça que Romains, chapitre 8, versets 19 à 22, nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise. » Elle ne s'est pas soumise. Elle a été soumise de force à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Il dit qu'elle aussi, ça veut dire elle aussi, que nous, on est affranchis. Nous, on a été affranchis lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Nous avons été affranchis de la vaine façon que nous avions de vivre. C'est le royaume de Dieu installé en nous. Quand Christ va revenir avec nous, la révélation qu'on va amener avec nous va affranchir aussi la nature. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle va être affranchie avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté. De corruption à la liberté pour la nature aussi, de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, et c'est valide aujourd'hui aussi, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices, le royaume de Dieu est installé en nous, les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. Votre rédemption, elle est pour l'instant partielle. Tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont morts avec la connaissance de Jésus, ayant accepté Jésus comme sauveur sur leur vie et comme Seigneur dans leur vie. Tous ces gens-là attendent encore quelque chose. Ces gens-là attendent encore quelque chose et attendent la rédemption de leur corps. Et ça, ça se fait quand l'ordre de la deux, de la première, la fin de l'ordre de la première résurrection est complétée. C'est-à-dire, nous, on va recevoir un corps glorifié si l'enlèvement se ferait ce soir, ce que je souhaite ardemment. Mais ce n'est pas nous qui contrôle là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement va avoir lieu ce soir, soyons clairs. Mais ça peut arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on ne sait pas. Mais ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, vont recevoir leur corps glorifié. Nous, à l'enlèvement, on va recevoir un corps glorifié. Et à la fin de l'ordre de la première résurrection, les martyrs vont recevoir un corps glorifié. C'est l'ordre de la première résurrection. Et ceux qui sont morts en Christ avant nous, ils sont pour l'instant en attente de la rédemption de leur corps. Donc, on va récupérer un corps semblable à notre corps. Je ne suis pas en train de dire que vous allez récupérer ça ici. Je suis en train de dire que ça va avoir une forme. Cette nature-là va prendre aussi une forme. Elle va être restaurée. La nature, pour l'instant, dans ce qu'on vient de lire, elle aussi est soumise. Elle est soumise à la vanité des hommes. Elle est soumise à la vanité de celui qui lui a soumis. Et la nature n'est pas à son apogée, loin de là. Le monde, un peu comme j'expliquais à un moment donné à des gens, tout ce qui existe a tendance à se dégrader. Okay? C'est la deuxième loi de la thermodynamique qu'on appelle l'entropie. Et vous et moi et la nature, tout se dégrade, soyons clairs. Mais un jour, tout va être restauré. Et le début de cette restauration-là se fait par la venue de Christ. Matthieu, chapitre 19, verset 28, nous dit, « Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme viendra au renouvellement, quand il va revenir poser son pied sur la terre, où il va renouveler, il va arrêter la dégradation, et suivant ça, il va renouveler, que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 19, 28, c'est la nature qui va être aussi restaurée, comme vos corps, qui vont avoir reçu un corps glorifié, vont être complètement restaurés. La nature, ainsi, va être complètement restaurée. Vous le trouvez aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Les espèces animales qu'on a sur la terre, je vous donne des caractéristiques du règne millénaire. Il ne faut pas penser, ça va être un monde que les gens appellent idéal, OK? Et vous allez voir que ça ne réformera pas le cœur de l'homme, comme je vous ai dit. Les espèces animales vont cesser leur lutte sans merci. Vous trouvez ça dans Ésaïe, chapitre 11, verset 6. On va prendre Ésaïe 65 et le verset 25. Ou chose qui nous semble incroyable, mais dans Ésaïe 65, 25, la Bible nous dit « Le loup habitera avec l'agneau ». Essayez pas de faire ça en 2020, là, au mois d'octobre 2020. Si vous mettez un loup avec un agneau dans un étable, vous allez trouver juste un des deux rendu au matin. Ce ne sera pas l'agneau, soyons clairs. Donc, la parole de Dieu nous dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Donc, la nature ne sera plus un danger. La nature ne se fera plus une lutte entre elles. Les espèces ne seront plus des antagonistes, si vous voulez, où un va, dévore l'autre pour sa subsistance. Parce que dans d'autres versets, la parole de Dieu nous dit, et je sais que ça peut vous paraître incroyable, nous dit ben, en bout de ligne que le lion, ben, il va manger du pâturage comme la brebis. Soyons clairs. Soyons clairs, si Dieu est capable de restaurer la nature, y compris les animaux, il est capable de leur donner de nouvelles fonctions. Il est capable de leur donner aussi des nouvelles envies, disons ça comme ça, pour se nourrir. Ça, c'était, ça clôt le cinquième point. Le sixième point, les saints vont régner avec Christ qui va les récompenser. Vous trouvez ça dans Matthieu 25, les versets 15 à 17. Vous trouvez ça dans Luc, chapitre 12, verset 43. Et vous trouvez aussi dans Daniel, chapitre 7, verset 18, toujours dans notre point 6, là, ici, que les gens ne connaîtront plus la mort en grande proportion pour la majorité. Vous pouvez trouver ça dans Daniel 7, 18, et nous, naturellement, pas du tout. Alors que Daniel 7, 18 nous dit que nous, on ne connaîtra pas la mort du tout, soyons clairs. Les citoyens, eux, du royaume millénaire, c'est-à-dire les hommes qui vont être nés pendant ce royaume-là millénaire, vont connaître encore la mort. On l'a pris tantôt et je veux le reprendre avec vous dans Ésaïe 65, le verset 20. Je veux le reprendre pour un peu défaire peut-être un peu l'idée que les gens se font de ce règne-là millénaire. C'est un règne parfait, mais il va exister. Le règne est parfait, mais le monde est encore composé de gens, d'une humanité imparfaite, donc qui vont avoir encore une problématique. Ésaïe 65, 20, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra 100 ans sera jeune, parce que l'espérance de vie va être de 1000 ans, et le pécheur âgé de 100 ans, lui, sera maudit. Donc, la génération, ça clôt le sixième point. Il me reste encore un peu de temps. La génération vivant au cours du millénium, pendant le millénium, où il n'y aura plus ni conflit armé, ni exploitation du prochain, ni défavorisé, ni famine. Le sol va produire par une nature restaurée en abondance de quoi à suffire à toute l'humanité. La bénédiction de la terre va avoir aussi une paix universelle, ce qui va contribuer visiblement à une explosion démographique de l'humanité. Rappelez-vous que l'humanité va avoir été en petit nombre, mais pendant le mille ans, Dieu va permettre qu'il va avoir un faible taux de mortalité et la majorité des gens vont vivre leur millénium parce que la connaissance de l'Éternel, comme on a vu, va remplir la terre. Donc, les gens vont savoir se garder, soyons clairs. La terre va être remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux remplissent le fond de l'océan, ce qui va élever le niveau moral des individus sans toutefois nécessairement, pour tous, transformer leur cœur. C'est le niveau moral qui va monter, la moralité. Si vous regardez dans certaines sociétés ou vous regardez des sociétés peut-être qui nous sont contemporaines, on voit que la moralité fluctue. Ce qui était immoral, il y a 100 ans, est tout à fait acceptable aujourd'hui. Je ne vous dis pas que c'est moral. Mais dans ce temps-là, ce qui aurait été décrié il y a 100 ans, aujourd'hui est vu comme quelque chose de tout à fait banal, quelque chose de tout à fait usuel. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des choses dans il y a 200 ans qui étaient, je vous en donne une, j'en prendrai une. Je pourrais me donner plein d'exemples et il y a des gens peut-être qui grinceraient des dents. J'en donne une, je prends quelque chose de large. Le concubinage. Je me rappelle, quand moi j'étais petit, et croyez-moi, j'ai peut-être l'air de 200 ans, là, mais je n'ai pas 200 ans, mais quand j'étais tout jeune, il y avait certains, le concubinage commençait, c'était les années du Peace and Love, le concubinage commençait. Mais les gens plus âgés qui vivaient en concubinage n'osaient pas le dire. D'ailleurs, les enfants de ces concubinages-là recevaient des avertissements des parents. Et je me rappelle de des amis que j'avais quand j'étais jeune où les parents avertissaient l'enfant de ne pas dire que papa et maman n'étaient pas mariés. Donc, le concubinage était quelque chose de mal vu. Là, 200 ans, était quelque chose qui était réprouvé moralement par les sociétés du temps. Aujourd'hui, c'est le mariage qui est réprouvé. Un peu comme l'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres, dans une des épîtres pastorales, Paul dit à Timothée, on va prescrire dans les derniers temps aux hommes de ne plus se marier. Et je me rappelle d'avoir assisté à des conversations entre compagnons de travail avant ma retraite où les gens accomplissaient littéralement la parole de Dieu en conseillant à d'autres hommes, à d'autres personnes, de ne pas se marier. Et je me souviens de des cas... qui me faisait, c'est pas drôle, mais ça me faisait sourire parce que ces gens-là se disaient incroyants et ainsi de suite. Puis je disais, vous êtes en train d'accomplir la Bible, vous êtes en train d'accomplir la parole de Dieu en disant à un homme qui dit, hey, je me marie cet été, et toi, en lui répondant, t'es-tu malade de faire ça? Voyons donc avoir droit à la moitié de ton fonds de pension si tu divorces. Donc, avant même de se marier, il lui disait, hey, tu vas divorcer. OK? La moitié de ton fonds de pension, la moitié de tes REER. Tu vas être obligé de payer une pension alimentaire si tu as des enfants. Et ainsi, peu importe les raisons pour lesquelles la société s'est rendue là, mais aujourd'hui, on prescrit souvent aux gens de ne pas se marier. Parce qu'aujourd'hui, le concubinage est tout à fait moral et tout à fait acceptable. Donc, la morale a des variantes selon les époques, selon les cultures, selon le milieu dans lequel on vient. Donc, plus la morale baisse, et c'est ici que je fais plaisir à personne, plus le niveau de péché augmente généralement. Quand Christ va revenir, un des traits du règne millénaire va être que le niveau moral des individus va être nécessairement élevé parce que la gouvernance va être théocratique, la gouvernance va être divine et les lois vont être faites en fonction, non pas de la morale humaine, mais de la morale spirituelle, voire divine, pour le bonheur du plus grand nombre. Mais le cœur des hommes, des femmes ne sera pas transformé. Peut-être qu'au début du règne millénaire, les hommes vont se soumettre à Christ de façon volontaire, vont avoir probablement, peut-être même tous accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel à ce moment-là de cette point-là de l'histoire de l'humanité. Mais les caractéristiques des nouvelles générations qui vont suivre dans le millénium, les enfants nés dans le millénium, qui n'auront connu que le règne millénaire, je vous l'ai dit que je m'attarderai un bon bout sur le règne millénaire, je termine là maintenant, qui vont connaître que cela, vont avoir un cœur prêt à la révolte. Et on va le voir dans les versets qui vont suivre. Ils vont avoir un cœur prêt à la révolte. Après 1000 ans, Satan va sortir, il va séduire la majorité. Il y en a qui vont rester fidèles, mais il va séduire la majorité parce que le cœur de l'homme qui n'aura pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, cette nouvelle gouvernance théocratique-là, de bon gré, qui va l'avoir accepté de mal gré, qui va y avoir été soumis, va avoir un cœur qui va gronder la révolte, malgré que la gouvernance va avoir été parfaite, malgré que le gouvernement de Christ va avoir été un bon gouvernement, le meilleur gouvernement que cette terre-là n'a jamais eu, soyons clairs, malgré qu'il va avoir prospérité, malgré qu'il n'y aura plus de famine, malgré que tout le monde va être dans l'abondance, malgré, le cœur de l'homme, lui, va avoir resté ce qu'il est, invariablement porté vers le mal, porté vers le péché. Il va en saisir l'occasion. La nature de l'homme, de nos ancêtres, après le péché d'Adam, a toujours été ça. Et le millénium va prouver quelque chose. Le millénium va prouver que l'homme, la femme, l'humain, qui soit mis dans le meilleur environnement possible. Il y a une école de pensée en psychologie qui nous dit que l'homme est foncièrement bon et que si on le place dans un bon milieu, l'homme est foncièrement bon. La Bible, elle, nous dit que l'homme sans Christ, et là, vous ne pouvez pas me lapider, là, mais je sais que peut-être ça va donner des envies, OK? L'homme sans Dieu dans sa vie, sans Christ dans sa vie, l'homme n'est pas foncièrement bon et n'a pas une nature foncièrement bonne. Mais l'homme sans Christ a une nature mauvaise, une nature irrégénérée, révoltée, qui est d'un naturel tendu vers le péché. Dans le millénium, les enfants nés pendant ce règne-là vont être tout aussi vulnérables aux séductions du diable, mais le diable va être enfermé pendant 1000 ans, souvenez-vous. L'Antéchrist, le faux prophète, ne seront plus là. Je vous ai dit que l'Antéchrist serait possédé littéralement de Satan. Ça va être un peu comme l'histoire de l'homme qui avait la Légion dans l'Évangile de Luc. Luc ou Matthieu? Luc, je crois. L'homme qui a la Légion. Quand cet homme-là est libéré, hein, les démons prient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais de les envoyer dans les pourceaux. Hein, rappelez-vous, un troupeau de pourceaux. Et Jésus lui permet d'entrer dans les pourceaux. Les démons sortent, entrent dans les pourceaux et entraînent le troupeau de pourceaux dans la noyade, pouvant sortir des pourceaux aussi pour chercher une autre victime, soyons clairs. Donc, Satan va être, on peut dire, incarné dans l'Antéchrist, mais que l'Antéchrist soit jeté, lui, il reste fondamentalement ce qu'il est, un esprit. Lui est enfermé pour 1000 ans. Le monde, l'humanité à ce moment-là, à ce point-là du millénium, à cause du cœur non régénéré, comme je vous ai dit, l'homme n'est pas foncièrement bon, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, explique que même si l'homme est dans le meilleur contexte possible, son cœur reste le même, pécheur. Et quand Satan va être délivré pour un court laps de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va séduire l'humanité. Il va fomenter une révolte. Et fait très étonnant peut-être pour vous et moi, le monde va répondre par l'affirmative. Le monde qui, dans ce temps-là, va être né pendant ce règne-là du millénaire, n'auront connu que le règne millénaire, vont dire, OK, on se révolte. On renverse cette gouvernance-là. On reprend nos vies en main. On jette la gouvernance. Même si cette gouvernance-là nous a bien entretenus, nous a bien servi, on se révolte. C'est donc ce que nous parle, cette dernière-là, cette dernière rébellion-là. C'est ce qu'on va nous parler à partir de la semaine prochaine. On est déjà rendu à la fin de mon intervention. On est rendu à la fin de notre intervention. C'est ce qui nous parle la suite des versets à partir du verset 7 au verset 15 de la semaine prochaine. On va faire une longue lecture et on va regarder l'après-millénium. Là, on a regardé la gouvernance du millénium, comment cette gouvernance-là va être gérée, au profit de qui elle va être gérée, pas au profit de Dieu, au profit de cette humanité-là. Dieu va encore appeler l'humanité, Dieu va mettre l'humanité dans une situation optimum pour croire, et à la fin du règne millénaire, malheureusement, le cœur de l'homme non régénéré, et je ne vous parle pas de vous et moi qui sommes sauvés, je vous parle des gens qui vont habiter, qui vont avoir repeuplé la terre pendant le millénaire, vont se révolter. C'est ce qu'on trouve à partir du verset 7, et je vous laisse en vous lisant le verset 7. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Vous vous rappelez qu'on a lu le verset « Car il faut qu'il soit relâché. » Il faut qu'il soit relâché pour une raison bien claire. La justice de Dieu appelle une décision. Ces gens-là qui vont avoir repeuplé la terre vont être remontés sûrement à plusieurs milliards d'individus, vont avoir le même choix que toi et moi, vont avoir le même choix que ceux qui ont été avant nous de suivre Jésus. Il faut qu'ils soient relâchés pour qu'eux fassent un choix, fassent le choix entre le bien et le mal. Ils vont avoir eu une situation optimum pour faire le bon choix, et pourtant, Satan va être relâché de sa prison et on va regarder la semaine prochaine comment le monde va réagir à cela. Donc, je vous laisse en priant et on reprend. Il nous reste peut-être encore 2 ou 3 cours. Ensuite, on va avoir terminé le cours d'Apocalypse. Et la semaine prochaine, on va regarder la mécanique de la séduction. On va regarder qu'est-ce qui va se passer. Et on va voir l'éternité d'après le temps, de quoi cette éternité-là va être meublée. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, de m'avoir fait grâce de pouvoir porter ta parole. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, qui veut être enrichi, Seigneur, de ta parole. Seigneur, que ton peuple puisse y trouver une nourriture abondante, non pas à cause de moi qui ai donné, Seigneur, cette parole, mais à cause que ta parole est ce qu'elle est, la vérité. Que ton peuple puisse y trouver une nourriture abondante, qu'il puisse se ressourcer, Seigneur, pendant la semaine dans cette étude. Allez vérifier les versets qu'on a tout simplement nommés sans les lire et s'enrichir davantage. Seigneur, je remets, Seigneur, entre tes mains la semaine de tous ceux, Seigneur, qui ont entendu le message. Garde, protège, Seigneur, et mène-nous à maturité, Seigneur. Seigneur, ton prochain retour, qu'il se fasse dans quelques jours, dans quelques années, voire dans quelques dizaines d'années, voire peut-être dans 100 ans, nous ne savons, que ce retour-là puisse nous trouver prêts ou trouver la génération de ce temps prêts. Parce qu'il y a une question angoissante, Seigneur, que tu laisses dans ta parole en disant « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, Seigneur, chacun doit se poser la question pour lui-même. Comment marche-t-on pendant le temps qui nous est départi sur cette terre? On voit que, Seigneur, que les temps raccourcissent, que le monde va en entonnoir vers un point précis, mon Dieu. C'est-à-dire, le tout va culminer vers un règne antéchrist avant un règne millénaire. Donne-nous, Seigneur, d'être humble et doux, soumis à ta main, ô Dieu, même si le mot n'est pas populaire, afin, Seigneur, que nous héritions des choses promises dans ta parole. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et on continue sur le sujet la semaine prochaine.